Hein? Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. La parole est à ceux qui veulent entreprendre aujourd'hui sur le continent africain. Et on est très heureux parce qu'on enregistre cette émission à Dakar, dans les locaux, dans le studio de RFI Mandincan, avec le coach Didier Akwété. Bonjour Didier.
Bonjour Emmanuel.
Vous découvrez les locaux aussi de RFI Mandincan.
Tout neuf, tout beau, sans la piscine, c'est bien dommage.
Avec vous Didier Akwété, bon je le rappelle, vous êtes président d'Afrique Search, société de conseil en ressources humaines. On a aussi le plaisir d'accueillir une autre coach pour l'occasion à Dakar. Bonjour Evelyne Tal Daouda.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez été directrice générale adjointe du groupe EcoBank, donc l'une des toutes premières femmes banquières du continent. Aujourd'hui, vous êtes présidente et fondatrice de Ian Partners, un cabinet de conseil en stratégie. Vous avez monté aussi un fonds d'investissement pour financer des femmes entrepreneurs. On en parlera. Vous avez une petite habitude de l'insurmontable grâce à votre carrière.
Après cette carrière, je me suis dit qu'il fallait faire de la stratégie, diriger des entreprises sur l'investissement en Afrique. Et également aider à créer des champions africains. Pour le fonds d'investissement, j'ai participé à une initiative qui a été dirigée par 4 femmes extraordinaires. J'espère qu'on aura le temps d'en parler tout.
Sur l'insurmontable, vous ne voulez pas réagir. Vous ne voulez pas répondre.
Elle est bien modeste. C'est la femme de l'insurmontable.
Merci beaucoup.
Et insubmersible. Evelyne Tal, Didier Akwété. Alors, en face de vous, 2 entrepreneurs, 1 entrepreneuse. Vous allez les écouter comme chaque mois dans l'émission. Vous allez répondre à leurs questions et nous dire comment ils peuvent se développer. Ils y croient. Et chez nous, on les appelle les JPAG.
Les jeunes patrons de l'Afrique qui gagnent.
Les voisins, quant à vous qui nous écoutez, pour passer dans la prochaine émission, puisque là on est à Dakar, on ne peut pas prendre vos appels, mais vous nous appelez pour passer en studio au téléphone pour le mois prochain. Vous nous contactez surtout pendant que vous écoutez l'émission, dès maintenant, sur le WhatsApp également, 33 1 84 22 71 71, c'est le même numéro, 33 1 84 22 71 71, ou bien par message privé sur nos réseaux sociaux ou par mail, 7milliards@rfi.fr. Allez, on démarre avec un premier projet, Ibrahima. Bonjour Ibrahima.
Oui, bonjour Emmanuel.
Merci d'être avec nous, d'affronter les deux coachs. Vous avez 24 ans, vous habitez Dakar.
Oui.
Vous êtes un serial entrepreneur, c'est comme ça que vous vous définissez en tout cas.
Oui.
Licence en droit des affaires, diplôme en entrepreneuriat et management. L'année dernière, vous avez été lauréat d'un concours de start-up organisé par Total. Et puis surtout, je tiens à le dire, vous avez aussi été dans la sélection pour le concours RFI Challenge App Afrique. Oui. Vous gérez 2 petites entreprises que vous avez créées,
oui.
C'est ça, une entreprise de consulting, coaching et formation pour les leaders entrepreneurs. Il fait un peu ce que vous faites, entre autres.
Ah bah, c'est un gros concurrent. Hein, voilà. Moi, je vais faire mes boutiques bientôt à Srip.
Et puis, vous avez aussi une entreprise de marketing et communication digitale qui s'appelle Natal Agency.
Oui.
Et vous êtes en train de créer maintenant une entreprise plus sociale,
ouais,
de recyclage de déchets plastiques qui s'appelle Nous Recyclons.
Oui, très bien, c'est
alors
c'est
vous n'êtes pas le seul hein, quand même à faire du recyclage de déchets.
Oui, mais nous aussi, nous avons notre façon de faire qui, à mon avis, n'est pas très commune. Mmh. Oui, voilà. Donc, Nous Recyclons, en réalité, c'est un projet social qui promet la durabilité environnementale, le développement socio-économique et la santé communautaire. Donc, nous donnons aux ménages la possibilité de générer de la valeur à partir de leurs déchets plastiques et dans un premier temps, nous fournissons un approvisionnement fiable à l'industrie de recyclage locale qui aujourd'hui, faut le dire, et rencontre pas mal de problèmes par rapport à leur système de collecte. En réalité, c'est ça Nous Recyclons et qui va se développer dans plusieurs phases, surtout dans la phase de transformation. Et à terme, on va transformer les déchets plastiques en biocarburant.
Quand vous récupérez ces déchets plastiques, vous les achetez au ménage ?
Non, justement, on les achète, on peut l'appeler comme ça, mais avec le système qu'on a, aujourd'hui, nous utilisons une application mobile qui permet de distribuer des points. Par exemple, 1 kg de déchets fournis égale 1 point. En réalité, on ne l'achète pas avec de l'argent. Mmh. Donc, nous mettons en place la logistique pour aller chercher avec notre tricycle, pour aller chercher les déchets plastiques et on donne des points. Donc, le point équivaut à 100 francs CFA.
D'accord. Mais donc, les gens vont vous dire, on ne mange pas avec des points.
Justement, les points, en fait, c'est comme des points de fidélité. à terme, ils peuvent l'échanger contre du crédit téléphonique, contre des bons d'achat, etc. Et derrière, ce sont nos partenaires, comme je l'ai bien dit dans le projet, qui sont soucieux de l'environnement, etc., qui vont rembourser en réalité ça. Donc nous, derrière, nous récupérons les déchets plastiques que nous allons transformer, mettre de la valeur ajoutée.
Transformer comment alors? Il faut une unité de production?
Voilà, justement. Donc il y a plusieurs phases, comme je vous ai dit. Donc d'abord, il y a une unité de production aujourd'hui pour le faire. Ça nécessite des moyens, mais du moment où nous essayons de pouvoir lancer ce projet avec les maigres moyens que nous avons, donc nous sommes justement à la phase de collecte. Donc nous collectons, nous trions et nous revendons à l'industrie de recyclage locale. Après, quand on aura les machines et tout ce qui va avec, on va transformer soit en fibres ou en granulés pour refaire des autres bouteilles plastiques ou bien pour faire des revêtements de sol, etc.
Donc vous revendez de la matière plastique.
Voilà.
Nous transformez, mais qui reste une matière plastique brute.
Voilà. Donc la première phase, c'est ça. Et la deuxième phase, c'est de finaliser, de transformer à 100% pour avoir un produit fini.
Alors pour l'instant, vous préparez une phase test à Kaolack au mois de janvier prochain.
Oui, justement, donc parce qu'aujourd'hui, Kaolack est réputé d'être la région la plus sale du Sénégal. Donc, c'est un challenge pour nous.
Les voisins vont être contents quand ils vont vous écouter.
Ah oui, donc c'est un challenge pour nous. Moi, je ne connaissais pas Kaolack. Moi, je suis Saint-Louisien d'origine. Du coup, mais quand on fait un projet, on regarde par rapport aux besoins. On savait que Kaolack était peut-être une belle opportunité. Du coup, on va partir faire la phase test là-bas avant de revenir sur Dakar et éventuellement s'élargir dans tout le Sénégal et pourquoi pas dans la sous-région.
Les questions que vous vous posez à l'heure actuelle, l'activité n'a pas encore à proprement parler.
Voilà, justement, parce qu'en fait, le problème que nous rencontrons le plus, c'est justement par rapport à la protection de l'idée de projet. Aujourd'hui, on a la chance peut-être d'être accompagné par de grandes structures, mais sinon, la plupart des problèmes que nous avons en tant qu'entrepreneurs, c'est de pouvoir protéger notre idée pour pouvoir se développer. Parce que quand on n'a pas la certitude d'être protégé, on ne peut pas parler à tout le monde, on a peur, on se dit « bon, on ne va pas participer à tel ou tel concours ». Parce qu'il se peut que l'on puisse prendre mon projet et après, si je n'ai pas les moyens, une autre personne peut le prendre. Donc, au coach, c'est la question principale que je voulais poser déjà dans un premier temps pour savoir aujourd'hui, nous, que pouvons-nous faire en réalité pour protéger notre projet et enfin pour pouvoir s'ouvrir et avoir des partenaires techniques, financiers, etc.
C'est un projet qui répond clairement à un vrai besoin, à la question de l'environnement et le recyclage des déchets plastiques. Mmh. Sur un projet comme ça, bon, évidemment, à part l'écosystème que vous créez, je ne vois pas d'innovation majeure. Donc, s'il y a une idée à protéger, c'est s'il y a une innovation autour du processus de transformation. Mais l'écosystème que vous créez, c'est difficilement protégeable de mon point de vue. Et il y a beaucoup de jeunes qui ont certainement la même idée que vous, qui le font déjà sous d'autres cieux. Donc, c'est plutôt la capacité à implémenter votre projet assez rapidement et à créer ce qu'on appelle des barrières à l'entrée, des barrières autour de vous, à travers les partenariats que vous allez nouer. Et c'est sur ça qu'il faut accélérer assez rapidement, avec le partenaire qui fera la transformation pour vous. Sinon, sous réserve de ce que dira la super coach Evelyne Daldaouda, c'est difficilement protégeable s'il n'y a pas d'innovation réelle derrière.
L'innovation des points, c'est l'innovation marketing, c'est pas l'innovation technologique, c'est ce que vous voulez dire.
Exactement. C'est simplement le concept, hein, et les concepts. Le concept est original, j'en conviens, mais c'est difficilement protégeable.
Evelyne Dal.
Je suis d'accord, c'est difficilement protégeable. Avant d'aller plus loin, rapidement sur Kaolack, j'ai passé les plus belles années de mon enfance à Kaolack, donc j'espère que vous contribuerez à nettoyer la ville. Ce projet, vous parlez d'une entreprise sociale.
Oui.
Mais vous parlez d'un projet industriel. Donc je suis d'accord que l'idée est difficilement protégeable, mais lorsque nous allons dans une entreprise, un projet industriel, il y a des barrières à l'entrée. Parce qu'il y a une technologie, il y a beaucoup de fonds à acquérir, mais surtout, vous êtes dans un secteur qui est réglementé au Sénégal. Il y a une loi sur la gestion des déchets. Vous devez avoir un agrément pour pouvoir transformer et recycler. Donc je pense que, en fait, le projet, comme je le vois, vous parlez d'une phase qui est le ramassage, mais vous devez vous positionner sur toute la chaîne de valeur. C'est votre ambition. Moi, je me demande si vous avez eu affaire aux structures qui sont là, parce que le Sénégal a un dispositif institutionnel pour aider les porteurs de projets et les accompagner. Donc, est-ce que vous avez contacté l'ADPME, est-ce que vous avez contacté toutes ces structures qui sont là pour vous aider à bien penser le projet, je ne parle même pas de financement, à bien le poser en projet industriel.
D'autant plus, Ibrahima, que là, vous avez une expérience, mais plus dans le domaine des services, avec vos deux petites sociétés créées. Aujourd'hui, effectivement, vous passez dans un tout autre secteur.
Oui, effectivement. En termes de services, etc., parce que nos deux entreprises, on a une entreprise qui fait des sites internet, des applications mobiles, une entreprise digitale et une entreprise de consulting, etc. Donc, on a bien fait une étude de marché, un business plan, une étude financière par rapport à ça.
Pour, sur la réglementation, voilà, vous parlez sur la,
actuellement, on est en train de parler avec les organismes qui se trouvent ici au Sénégal. Mais aujourd'hui, ça renvoie un peu à ma question, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de projets que l'on voit, on entend souvent des idées qu'on a reprises, etc., qu'à la fin, on se dit, bon, comment est-ce qu'on va faire, justement? Donc, mais bon, je pense qu'à la sortie de cette émission aujourd'hui, je vais peut-être aller vers eux, tout en sachant que, voilà, vos réponses sont vraiment bénéfiques, tout en sachant que je ne vais pas m'attarder sur le fait de protéger le projet et d'aller rencontrer d'autres personnes pour voir éventuellement les opportunités qui pourront se présenter.
C'est vrai que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas dans le domaine que le projet ne va pas forcément fonctionner. Tout dépend de ceux dont vous allez vous entourer. Mais surtout, je crois qu'il faut aussi être vigilant dans ce genre de projet qui est assez volumineux en termes d'investissement, en termes d'infrastructure, ouais, pour savoir si vous vous positionnez plutôt à une phase, en fait, du cycle de ce projet. Vous pouvez être simplement collecteur.
Hein, c'est ce que j'allais dire.
Vous vous dites,
oui,
pour moi, je
collecte. J'ai justement pensé à ça, parce qu'en fait, c'est clair qu'il y a une chaîne de valeur, en fait. Donc, il y a la phase collecte et il y a la phase transformation. Aujourd'hui, on peut se positionner. C'est pour ça qu'on est en relation avec l'industrie de recyclage local, qui sont prêts à acheter nos plastiques. Donc, il y a plusieurs points. C'est-à-dire, on peut collecter les bouteilles, comme on voit, les PET, etc., on peut les collecter, les compacter et revendre justement ça, s'arrêter là. Ça, c'est plutôt simple. Par contre, on peut collecter et transformer. Donc, les transformer soit en fibres ou en granulés et revendre plus cher. Parce qu'à chaque fois qu'on fait une petite transformation, ça a de la valeur. Donc, on peut s'arrêter là. Mais aujourd'hui, je me dis que nous, on est ambitieux. Et l'idée, c'est de pouvoir maîtriser toute la chaîne. On n'a pas encore les moyens pour le faire. Mais moi, je me dis qu'à terme, c'est de pouvoir maîtriser la chaîne, collecter, premièrement, qui est compliqué, que l'industrie ne maîtrise pas. Et ensuite, transformer en fibres et en granulés, refaire de nouvelles bouteilles, refaire des revêtements de sol, tout ce qu'on peut faire avec le plastique, et enfin créer du biocarburant à partir de ça pour faire conduire les Jakarta, etc. Donc c'est un marché qui est là, il y a plusieurs choses à faire. On a bien compris qu'il faudrait commencer petit, maîtriser une phase d'abord et enfin grandir. Donc moi, c'est la
réponse
que
à tout. Ibrahima, 24 ans. Pour l'instant, ce sont les équipes de vos deux entreprises existantes qui travaillent sur le projet avec vous, hein, complètement bénévoles. Et pour l'instant, tout est financé sur fonds propres.
Oui, parce qu'en fait, on a aussi remporté le Challenge Startup de l'année avec Total. Donc, ils nous aident un peu par rapport à ça. Mais bon, on est en train toujours, ça prend un peu de temps, mais ça va se régler.
Moi, il me semble qu'il faut structurer le projet, même si vous vous arrêtez à la première phase.
Oui.
Et pouvoir avoir du financement et de l'accompagnement. Donc, je vous demande vraiment de vous approcher de ces structures. Mmh. Elles sont très nombreuses au Sénégal. Et peut-être là où le bas blesse, c'est la coordination.
Mmh. Ça veut dire que vous, en tant qu'ex-banquière, là, vous voyez arriver un dossier comme ça, s'il n'y a pas déjà un appui des structures publiques, par exemple des structures de financement, vous signez pas?
Oui, je vais. En fait, au-delà des banques, je pense qu'ils peuvent avoir du financement autre part que dans les banques. La DER qui donne du financement.
La délégation à l'entrepreneuriat rapide.
Rapide qui donne du financement. Vous avez un fonds qui a été créé pour financer les entreprises. Ce fonds a été créé par le fonds 6.
Et des fonds pour l'environnement, notamment, qui peuvent aussi venir en soutien à ce genre de projet.
Le fonds Teranga Capital, donc, qui a été créé par le fonds 6. Attendez que je termine. Je voudrais juste vous donner une démarche. Il faut avoir une démarche. Oui. Il faut pouvoir mettre en place le projet, vous situer à une certaine phase, savoir à quelle phase vous avez besoin de réglementation.
Oui.
Mais moi, je vous demande de ne pas continuer dans l'autofinancement. Je ne suis pas d'accord. Et de ne pas se focaliser juste sur les banques. Il y a beaucoup d'autres moyens pour se faire financer ce projet. Et juste pour terminer, sur tout le cycle, il y a de la demande au Sénégal, il y a de la demande à l'exportation. Aujourd'hui, votre concurrence exporte en Mauritanie, en Hollande, en Italie. Donc, il y a de la demande.
Du déchet plastique.
Du déchet plastique recyclé. Et ils exportent. Et vous avez également une agence au Sénégal qui s'occupe des exportations, la CEPEX.
Oui, moi je préfère plutôt dire matière première secondaire, parce qu'en fait ce ne sont plus des déchets maintenant, du moment où on peut les transformer et les rentabiliser. Par exemple, ce qu'a dit Madame Evelyne tout à l'heure, donc les fonds d'investissement qui sont là, c'est extrêmement compliqué pour des porteurs de projets qui ont une idée de projet. Parce qu'ils vous demandent le bilan, vos années d'existence, etc. J'ai tapé à plusieurs portes. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, de toute façon, c'est l'environnement, donc je vais voir les financements internationaux, je vais voir la Banque mondiale, je vais voir,
oui,
etc.
Oui, c'est vrai.
Parce
c'est
qu'aujourd'hui,
vrai.
Ils te demandent,
il a raison.
On a une idée. En fait, ils ne
plus.
Croient pas à l'idée. Ils veulent du concret. Alors qu'aujourd'hui, nous avons une idée.
Alors que sur le déchet plastique, même s'il y a beaucoup de choses, pardon, hein, je devrais dire matière première industrielle,
secondaire.
Voilà,
matière première secondaire.
Matière première secondaire, mais dans ce domaine-là, il y a de la place pour beaucoup de concurrents, vu la croissance urbaine en ce moment.
Il y a de toute évidence de la place. Oui. Ce que je dis souvent aux porteurs de projets, c'est un projet industriel qui, c'est vrai, nécessite beaucoup d'investissement. Si vous n'êtes pas prêt, et au début de l'émission, vous disiez, d'ailleurs, j'ai peur de présenter mon idée, bon, il y a 7 milliards de personnes qui seront déjà informées quand l'émission va être diffusée. Bon, donc c'est pas ça la question. Si vous pouvez commencer par une chaîne de la valeur, commencez déjà. Faites vos preuves. Vous allez voir après, naturellement, des partenaires vont venir s'agréger. Peut-être des financiers vont dire « Ah tiens, ce truc commence à fonctionner. Il a un réseau de collecte et en plus de redistribution. » N'hésitez pas à commencer.
Bon, on peut quand même le féliciter à 24 ans quand même, de Absolument. Savoir aussi bien,
bien
où il va. Hein
Absolument.
On en reste là. Vous pourrez bien sûr intervenir si vous le souhaitez, Ibrahima. On passe à un autre projet parce que tout le monde veut avoir sa dose de conseils et de débriefing des deux coachs, Evelyne Taldaouda et Didier Akwété. Et vous qui nous écoutez, bien sûr, vous pouvez nous téléphoner pour passer dans l'émission le mois prochain. Le coach est là, à la maison, chaque mois. Enfin, en l'occurrence, c'est nous qui sommes sur le continent africain aujourd'hui, à Dakar, dans les locaux de RFI. RFI Mandinkan, 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
Il y a des talents sur lesquels moi je parie.
Vraiment, l'Afrique regorge de talents.
Eh bien, je vous avais annoncé deux entrepreneurs, une entrepreneuse. Bonjour Safietou.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes sénégalaise également. Vous avez étudié l'économie et la gestion aux États-Unis, à Atlanta, à Washington. Vous étiez déjà passionnée de vêtements et de mode à cette époque-là ?
Ça date depuis ma très tendre enfance, depuis très longtemps.
Donc, ce n'est pas une lubie. Vous avez créé, il y a 4 ans, une très belle marque qui s'appelle Saaya, une marque de vêtements haut de gamme. Vous portez d'ailleurs sur vous un très beau manteau. On peut dire juste en deux mots ?
Oui, bien sûr.
De quoi il est composé ?
Alors, c'est un
Allez
manteau.
Voir les photos sur les réseaux sociaux.
Oui, non, mais c'est un manteau. Donc, c'est un tissu fait au Sénégal, le pagne tissé. Donc, il a été entièrement fait donc, au Sénégal.
Épais et souple, une matière extraordinaire.
Oui.
Ça ressemble à de la soie, d'ailleurs.
Oui, complètement. Magnifique. Et donc, la marque Saaya, c'est un nom qui évoque l'or pour les Sénégalais. Peut-être le dire pour les autres voisins.
Je peux le dire. En fait, Saaya, en fait, c'est une région au sud-est du Sénégal. Pas une région, un département dans la région de Kédougou, qui produit de l'or. Et en fait, j'adore ce nom parce qu'il est très épuré, il est facile à prononcer. Comme ça, je sais que si je vais aller dans un pays...
Alors le concept, il est simple à comprendre, oui. Du vêtement haut de gamme, très bien fait, très belle matière, tissé localement. À l'heure actuelle, vous faites l'essentiel de vos ventes à l'extérieur du Sénégal ?
Oui, effectivement, je dirais que 85 à 90% de mes ventes se feront à l'extérieur du Sénégal.
C'est qui la femme Saaya ?
Ben, la femme Saaya, elle a entre, disons, 28 ans et 65 ans. Elle est indépendante.
Ah oui.
C'est une femme qui est forte, qui a de la personnalité, qui sait ce qu'elle veut, qui sait où est-ce qu'elle va, qui aime s'habiller.
Ben, c'est Madame Tal que vous avez en face
Exactement.
De vous, la banquière.
Exactement.
La banquière du continent.
Exactement.
Elle achète
Exactement.
À tout va. Elle va sortir son chéquier, là.
Voilà.
La marque a maintenant 4 ans. Est-ce qu'elle est rentable ?
Moi, je pourrais dire que la marque est rentable. En tout cas, le marché à l'extérieur, il y a de la demande partout, à un tel point que ça fait peur. Surtout avec les réseaux sociaux, ça passe très vite.
Pourquoi ça fait peur ?
Il y a une actrice américaine qui est encore jeune actrice, donc qui a un jour porté un de mes vêtements. Elle s'appelle Tiona Paris. Elle joue dans la série Empire. Et elle a porté, elle a mis ça sur les réseaux sociaux. Et voilà, je me suis retrouvée dépassée, submergée et incapable de satisfaire la demande, honnêtement. Et ça m'a très vite rattrapée. Et puis, en dehors même des réseaux sociaux, bon, je voyage, je fais des ventes privées, des amis, et tout ça, c'est grâce à mes amis. Donc, ça a commencé comme ça, qui m'organisent des ventes privées. Mmh. Et
puis, alors, les prix, il faut quand même le dire, hein, très élevés.
Les prix sont élevés dans un marché comme le Sénégal. Mmh. Mais quand je vais à l'extérieur du Sénégal, là, c'est autre chose.
Ça correspond à un coût de fabrication, ces prix très élevés ?
Très élevés, relativisant. On va rentrer dans la discussion après, mais un prix élevé n'a de sens que par rapport à un marché.
Ah, c'est ça.
Non, mais le Absolument. Prix, il est très élevé pour sélectionner une clientèle ou parce que ça revient cher à fabriquer ?
Non, ça ne revient pas forcément.
Moi, si j'achète, est-ce que je paye un marketing du luxe ou je paye vraiment de la qualité ?
Ben, vous payez les deux, je trouve. On m'a proposé plusieurs fois de produire en Chine. J'ai dit non, je produis au Sénégal parce que bon, voilà, on a de bons tailleurs et ça revient moins cher, d'autant plus que j'utilise la matière qui vient de chez moi. Donc,
Alors, votre souci aujourd'hui, vous êtes arrivé à une espèce de taille critique, là, avec beaucoup de demandes, et puis vous n'arrivez plus à avancer, c'est ça ? Vous avez une forme de plafond de verre en business ?
Il y a de ça, parce qu'il y a un problème de financement, donc ça, c'est ma deuxième question. Mais le problème, c'est qu'il est aujourd'hui difficile de construire une marque haut de gamme en Afrique. Parce qu'on a l'impression que le haut de gamme vient toujours de l'extérieur.
Parce que vous êtes au Sénégal, si vous étiez au Nigeria, en Afrique du Sud ?
Oui, effectivement. Mais la notion reste toujours que le haut de gamme, c'est-à-dire aujourd'hui, on va dépenser beaucoup d'argent sur des sacs qui viennent de l'extérieur, d'Europe, des grandes marques et tout ça, sans se poser de questions. Mais quand vous avez donc une styliste ou, je sais pas, quelqu'un qui est dans l'industrie créative, qui va vendre quelque chose qui est relativement élevé, les gens refusent de payer le prix parce que ça vient de chez nous. Alors que ça devient une autre histoire quand moi je vais à l'extérieur où les gens me disent « Attention, si tu continues avec des prix comme ça, tes prix sont trop bas. »
Pour être crédible.
Alors, moi, j'aurais vraiment voulu vendre en Afrique aussi, franchement. Et ça se vend. Ça se vend en Afrique.
Mais c'est ce que vous voulez. Vous allez y arriver. C'est pour ça que vous êtes ici avec les deux coachs.
Aujourd'hui, je ne dois pas déployer des efforts, autant d'efforts pour vendre une marque africaine en Afrique.
Est-ce normal ?
C'est pas...
Evelyne Tal.
C'est un projet qui m'intéresse énormément. La première fois que j'ai vu son produit, c'était au Bénin. Et donc, ça veut dire qu'elle s'exporte bien et en Afrique. Alors, il s'agit de l'industrie du luxe. Il faut appeler... Le haut de gamme, c'est du luxe.
Voilà, c'est le début de LVMH en Afrique.
Exactement.
Made in Sénégal.
Mais il y a une clientèle. Et depuis les années 80, d'ailleurs, les femmes s'habillent auprès de stylistes qui ont un positionnement de luxe. Moi, ce que j'aime bien également dans la démarche, c'est qu'elle a tout de suite vu de grands ensembles. Pas le Sénégal seulement, mais l'UMOA, puisque... Je pense que vous vendez sur la Côte d'Ivoire et sur d'autres pays. Moi, je vous encourage à y aller. Tout à l'heure, pour définir le produit, qu'est-ce qu'on achète ? On achète la créativité. Il faut absolument de la qualité dans l'industrie du luxe, mais il y a le prix de la créativité qu'il faut qu'on accepte de payer.
Non, mais là, en termes business, comment on fait ? C'est un problème de distribution, c'est un problème de financement pour fabriquer plus, c'est un problème de communication, de positionnement. C'est quoi le blocage, là, Didier, à côté ?
En fait, c'est pas qu'il y a un blocage, c'est qu'il y a deux éléments. Il y a le marketing de la marque, parce qu'il y a un problème de positionnement en Afrique, et Evelyne Tal Daouda l'a indiqué, elle est sur un segment haut de gamme. Et il faut qu'elle affirme un positionnement haut de gamme et qu'elle aille sur des marchés où cette clientèle existe.
Mais elle va déjà à New York.
Bah justement, c'est ce qui est bien. Elle va à New York, elle peut peut-être aller à Lagos, en Afrique du Sud, à Tokyo, à Singapour.
Donc
à
Dakar, on met de côté pour le moment.
Non, pas du tout, c'est pas ça.
Reste à Dakar aussi.
C'est que son produit, si vous voulez, quand vous êtes en développement produit, vous allez sur les marchés les plus captifs dans un premier temps pour créer de la richesse. Quand vous créez de la richesse, vous pouvez augmenter votre production et adresser encore un marché supplémentaire. Et une fois que vous avez assez de ressources, vous pouvez diversifier même votre production. Et donc, elle est dans une phase où elle est en plein développement sur des marchés qui sont les plus captifs pour elle. Et l'idée, ce n'est pas qu'elle crève parce qu'elle veut forcément vendre à un marché local. Ce n'est pas ça l'intérêt. Elle est en train de développer une marque internationale. Donc, il faut qu'elle aille sur des marchés où on peut consommer son produit. C'est ce qu'elle est en train de faire. Et comme ces marchés sont en plein développement, et c'est ça sa deuxième question, il va falloir qu'elle augmente ses capacités de production parce qu'elle n'a pas de problème de marché. Aujourd'hui, c'est un problème de production qu'elle va avoir, continue son développement. Et donc là, elle va devoir chercher des investisseurs. Et c'est là que Mme Tal va signer un chèque.
Evelyne Tal, il faut peut-être rappeler d'ailleurs que vous avez ce fonds d'investissement qui a été créé pour accompagner des femmes entrepreneurs.
Oui, exactement. Je pense que sa fille est en contact avec elle. Il y a quatre femmes qui, en 2016, se sont mises ensemble et ont décidé de drainer l'épargne de femmes pour investir dans des projets de femmes. Donc, c'est le Women Investment Club que j'ai rejoint et qui ont créé le Women Investment, le WIC Capital.
Oui, bon, quand même un club fermé à la moitié de l'humanité.
Oui, ben, pour une fois. Pour une fois, qu'on
le
s'occupe des femmes.
Le verre à moitié plein ou à moitié vide.
Voilà, voilà. Et je pense que l'objectif de WIC Capital, c'est de participer à la création de champions africains. Une entreprise qui a 4 ans, qui a un historique, qui a une clientèle internationale, qui aujourd'hui a pu attirer l'attention de stars hollywoodiennes, je pense que ce que nous devons essayer de faire, c'est de l'aider à atteindre notre niveau. Et elle est à ce stade réellement. Et voilà pourquoi je suis contente qu'on ne parle pas que de banque. Il y a d'autres formes de financement pour pouvoir atteindre ce niveau. Juste sur la marque et le positionnement, même si c'est dur de dire « je suis dans le luxe », il faut de la cohérence quand vous avez une marque. Pour positionner votre marque, il faut de la cohérence, il faut de la continuité. Il faut continuer avec la qualité. Et moi, sur les prix, je n'ai pas de problème. Je pense que dans chaque marché, elle aura sa clientèle et qui pourra acheter son produit. Donc, je ne m'attarderai pas sur le prix parce que le produit de luxe est cher.
Je vous rejoins parfaitement. D'ailleurs, le Women Investment Club, ils ont fait la différence. Hein, parce que je vous dis, moi, je suis dans un marché, j'ai été rejetée pratiquement par toutes les banques. Il y a des banques qui n'ont même pas cherché à savoir.
Pourquoi ? Parce que c'était du vêtement ?
Parce que c'était du chiffon.
Il y a une banque qui m'a envoyé une réponse. Venez prendre votre lettre, votre réponse, d'accord, sans avoir à me dire le pourquoi, le comment. J'ai ouvert la lettre. Refusé, d'accord, j'ai même pas essayé de comprendre. La différence avec Women Investment Club, c'est que parce que j'ai tellement été rejetée que quand j'ai fait ma demande de financement, j'ai comprimé tous les chiffres. Et la femme qui était en face de moi a regardé, m'a dit, mais...
Vous demandez pas assez.
Mais j'ai l'impression que vous êtes en train de vous limiter là, mais pourquoi ? J'ai dit, mais attends, mais c'est extraordinaire. Au moins, quelqu'un qui, sans avoir... Voilà, m'a compris tout de suite. C'est une marque haut de gamme, donc il faut que ce soit du haut de gamme.
Il y a un blocage culturel, clairement.
Il y a un blocage, moi je peux vous dire. Il y a un blocage culturel parce qu'il y a des gens, je vous dis carrément, mais ils veulent absolument avoir mes vêtements, mais absolument, mais ils refusent de payer les prix. Et alors, à côté, on a un grand sac d'une grande marque et tout ça, mais on ne veut pas, on ne veut tout simplement pas. S'il y a un blocage quelque part dans
parce que quand on porte vos vêtements aussi, on n'affiche pas un statut social, on n'affiche pas une marque. Cette marque, elle est trop confidentielle aussi.
Peut-être.
Oui, probablement dans un premier temps. Si vous voulez, ça ne fait 4 ans, donc c'est vrai, il faut que la marque s'installe.
La route va être longue pour s'affier tout à votre avis.
Non, pas forcément. Ça peut aller très très vite. C'est-à-dire que si demain il y a un investisseur. Et elle a une boutique à New York, à Dakar, bien sûr, à Johannesburg, à Paris. Mais ça va s'enflammer parce que ça aussi, c'est le marketing de la marque, la visibilité, la proximité. Et vous savez, je cherchais un chiffre. L'industrie de la fashion dans le monde, c'est 2 milliards de milliards de dollars. C'est énorme. Donc, ça veut dire qu'elle a sa place. Et sur un marché en plus africain qui est en plein développement, son business ne peut que se développer si elle maintient son positionnement, la qualité des produits et puis un réseau de distribution qui doit absolument accompagner cette stratégie.
Qui passera par forcément par le e-commerce et pas seulement par les boutiques.
Ouais. Mais je pense qu'il y a encore des initiatives, hein, surtout avec l'initiative de la Fashionomics de la BAD, qui effectivement est là pour supporter les entrepreneurs. Bon, on attend encore de voir, mais ça, c'est vraiment en train d'avancer.
Tout le monde veut faire de la mode quand même à l'heure actuelle sur le continent africain, parce qu'il faut dire aussi qu'il y a une créativité débordante, mais dedans, il n'y aura que quelques élus, hein, Didier, à côté.
Bah, c'est normal, si vous voulez. En fait, et je reviens au point de départ, c'est que la mode, on l'a assimilée trop longtemps au tailleur du coin, du quartier, qui est une mode, bien sûr, mais qui a un positionnement prix que les gens ont du mal à accepter aujourd'hui quand on passe en haut de gamme. Et effectivement, avec 2 milliards d'habitants, même si vous en avez 500 millions qui peuvent consommer, le marché est ouvert.
Ouais. Avec quelques millions, ça vous suffira, hein, je pense.
Oui, largement.
Ça fait tout.
Largement.
Bon, vous restez avec nous, bien sûr, vous pouvez intervenir quand vous le souhaitez. Les voisins, les voisines, on est avec les coachs Evelyne Tal Daouda, Didier Akwété et des entrepreneurs, une entrepreneuse. On vous donne la parole. Vous pouvez nous appeler, vous qui nous écoutez, les voisins et les voisines, pour passer dans l'émission le mois prochain. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
T'as un projet, t'as un business plan, alors viens en parler au coach.
JPAG, jeune patron de l'Afrique qui gagne.
Vraiment, l'Afrique regorge de talent.
Alors, chez 7 milliards de voisins, à l'image de l'Afrique, on fait le grand écart avec les projets des entrepreneurs et des entrepreneuses. On a parlé des déchets plastiques, on a parlé du luxe, vêtements. Et puis maintenant, on va revenir dans le secteur informel avec vous, Abdallah. Bonjour, Abdallah.
Bonjour, Emmanuel.
Vous avez 35 ans, vous avez une licence en informatique, vous avez été sélectionné pour le concours Challenge APA Afrique. Vous êtes en train de créer un concept très intéressant qui s'appelle Jutaali, qui est une plateforme de gestion de l'espace public en Wolof, parce que moi je ne prononce pas bien, probablement, Jutaali.
Oui,
ça veut dire.
Bonjour, Emmanuel. Vous le prononcez bien. Jutaali, c'est un mot Wolof sénégalais qui permet de dire fait passer.
Oui.
Donc l'idée du projet est partie de l'occupation anarchique de l'espace public dans notre capitale.
Donc, oui. Là, vous n'avez pas besoin de faire un dessin. Je crois que tout le monde a compris.
Ouais, tout le monde
Occupation
a compris.
Anarchique de l'espace public. D'accord, oui. C'est bien dit comme ça.
Oui.
Oui.
Donc, l'idée pour nous était de pouvoir participer et d'aider aussi les collectivités à pouvoir gérer cet espace public. Donc, en mettant en place un système qui va être utilisé par SMS et aussi par application mobile.
Donc, concrètement, je suis une commerçante avec des fruits et des légumes sur le trottoir, s'il y a un trottoir. Je me plains parce que parfois je ne retrouve pas mon emplacement, ça donne lieu à des conflits, que si je veux contacter la mairie, c'est compliqué. C'est ça la situation ?
C'est ça actuellement la situation. Parce qu'il s'est trouvé qu'il y a Madame Ba qui est juste à côté du quartier. Donc elle a vu qu'elle peut commencer à faire un commerce de gargotes avant de déjeuner. Donc, elle voit, il y a un espace qui n'est pas utilisé.
Donc, elle s'installe.
Elle s'installe.
Naturellement.
Naturellement. Et ainsi de suite, on voit qu'au fur et à mesure que les choses évoluent, la mairie n'arrive plus à gérer ça.
Oui.
Donc, pour faciliter cette gestion, donc, Madame Tall doit faire une demande au niveau...
Madame Ba, vous avez dit.
Madame Ba va faire une demande au niveau de la mairie.
Madame Tall aussi.
Pourquoi pas Madame Tall aussi.
Oui.
Donc, en faisant une demande à la mairie, Jutaali va être l'interface entre la mairie et les usagers. Donc,
non, mais là, Madame Ba, elle dit, je ne vais pas aller à la mairie, je vais faire la queue, ça va prendre des heures.
C'est Madame Tall, c'est pas Madame Ba.
Donc, tout ça, et d'habitude, on a un problème d'information. Parce que la première idée qu'on a, on cherche de l'argent. Donc, on ne passe même pas à suivre les procédures. Donc, directement, elle va passer une demande au niveau de l'application. Donc, la mairie va être outillée pour pouvoir gérer toutes ces demandes-là.
Donc, cette commerçante, elle passe par votre application numérique.
Oui.
Qu'est-ce qu'elle fait ?
Elle va effectuer une demande à partir de notre plateforme.
D'accord.
Donc, pour dire à la mairie...
Demande officielle d'emplacement d'un commerce informel.
D'un commerce informel. Et la demande est traitée et envoyée directement à la mairie concernée qui envoie une équipe sur le site pour vérifier est-ce que l'emplacement...
L'espace est libre.
Est libre. Mmh. Est-ce que l'emplacement aussi est bien situé pour ne pas créer des problèmes au niveau de la circulation. À partir de là, Madame Ba... peut recevoir une notification qui lui permet de dire « Ok, l'emplacement demandé a été validé
c'est
par
ça.
La mairie. »
Et le jour où on lui prend sa place, elle peut montrer avec son smartphone l'autorisation.
C'est ma place.
Les commerçants, les citoyens peuvent aussi introduire une demande de vérification de la zone occupée.
Oui, parce que souvent, nous, on voit une personne qui n'habite même pas dans le quartier, qui habite loin et qui vient s'installer, qui fait ses commerces et qui gagne de l'argent et qui ne contribue pas au développement du quartier et qui aussi ne fait pas le minimum pour... entretenir aussi l'espace qu'elle a occupé.
Qui va payer pour ces services ?
Donc, il y a le demandeur donc, qui va payer déjà ses services pour une demande d'emplacement.
Le commerçant, donc, par exemple.
Le commerçant, par exemple, va payer 1 000 francs pour une demande.
1,50 €.
1,50 €. Et la mairie
va... Il repaye tous les mois ou comment ?
Non, juste pour une demande, il le paye. Mais notre plateforme permet aussi de gérer plusieurs services qu'on va mettre au fur et à mesure des besoins des clients. Parce que quand on parle de commerce, forcément, il y a les besoins de la comptabilité qui vont venir, il y a les besoins en gestion de stock qui vont venir. Et tout ça, donc, on va créer des petits services au niveau de notre application qu'on va mettre à la disposition des usagers.
En fait, tous ces services, c'est de l'argent ensuite qui va rentrer dans les poches de la mairie.
Oui, l'argent va rentrer dans les poches de la mairie. Mais comme on va outiller la mairie pour pouvoir gérer tout ça, parce que la mairie a deux problèmes ici qu'on a constatés. C'est le problème du recouvrement des taxes et aussi de pouvoir identifier les commerces, combien est-ce qu'ils doivent payer pour les taxes. Donc ça, c'est deux problèmes qu'ils ont. Et quand on arrive à gérer ces problèmes-là, la mairie va avoir des rentrées de revenus pour bien gérer tous les problèmes qu'il doit avoir.
Ça veut dire qu'avec votre application, vous rendez la fiscalité plus acceptable pour des commerçants informels avec un échange de services.
Avec un échange de services.
La plupart des gens disent pourquoi payer des taxes ? Qu'est-ce qu'on a en échange ? Rien du tout.
Ouais, parce qu'il ne faut pas oublier que pour se développer, il ne faut pas oublier que l'environnement joue un rôle important dans le développement d'un pays. Et quand on n'arrive pas à maîtriser notre environnement, donc on se retrouve toujours avec beaucoup de problèmes pour pouvoir vraiment améliorer aussi les choses.
Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, Abdallah ?
Actuellement, on est en train de travailler avec quelques mairies. Donc, il y a une mairie de la ville de Dakar, donc la mairie de Golf. Et aussi, on est en partenariat avec la mairie d'Amban et de Medina Sabah, donc pour pouvoir déployer ce projet là-bas. Donc, c'est l'occasion qui m'est offerte à participer dans cette émission, c'est surtout pour demander aux coachs comment convaincre les collectivités et les citoyens d'adhérer à ce projet.
Parce que d'adhérer, ça veut dire de payer, hein, quand même, dans un premier temps.
Oui, dans un premier temps,
pour les communes et pour les commerçants.
C'est surtout pour les sensibiliser. Parce qu'ici, surtout au Sénégal, on a un problème d'ordre. Donc, parfois, les gens ont du mal à aller voir les autorités pour faire une demande ou bien pour comprendre comment ça se passe les choses ici. Et quand on met en place cet outil, parce que c'est maintenant, en Afrique, on utilise beaucoup plus les téléphones mobiles que nos ordinateurs. Et tous nos mamans qui font la commerce utilisent ça avec WhatsApp. Donc, il y a les clients qui envoient un vocal ou bien qui envoient des messages et ils font des réservations.
Non, mais on est d'accord, ce n'est pas un problème d'usage, ça. Ouais. Les commerçantes, elles sont capables d'aller utiliser votre application. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux, là, les coachs Evelyne Tal, Didier Akwété, Evelyne Tal, de ce projet ?
En fait, j'ai écouté avec attention et j'ai compris que vous voulez être intermédiaire entre les pouvoirs publics et les commerçants. Et finalement, si vous arrivez à ordonner tout cela, faire payer aux usagers un service public. Et on touche la gestion des espaces publics. Et vous parlez beaucoup de mairies. La question que j'ai, c'est est-ce qu'il n'y a que les mairies qui gèrent l'espace public au Sénégal ? Est-ce que c'est le seul interlocuteur que vous devez avoir ? Je sais que vous faites des tests avec certaines mairies, mais pour moi, il y a un peu plus de services de l'État à qui vous devez vous adresser. Donc là, il faut être très, très clair sur à qui on va s'adresser, qui est le client, parce que vous parlez de comment intéresser les mairies ou les usagers, qui est le client d'abord ? Est-ce que c'est les mairies vos clients ? Est-ce que c'est les mairies qui vont rendre cela obligatoire aux usagers ? Ou est-ce que vous pensez que si vous arrivez à convaincre les usagers, la mairie aura adhéré ? Donc,
Abdallah, pour l'instant, vous êtes en lien qu'avec des mairies ?
Oui, pour le moment, on est en lien avec des mairies. C'est parce que c'était la seule possibilité qu'on avait pour pouvoir étudier ce problème-là. Parce que c'est pour proposer une solution qu'on a mis en place cette application. Et sans l'aide des autorités publiques qui doivent le faire à notre place, mais nous, on s'est dit qu'on va participer. Donc, comme on vit dans cet environnement, donc on va démarrer avec les mairies.
Comment réagissent les mairies, d'ailleurs, quand vous allez les voir ?
Oui, parce que je tiens à rappeler qu'on travaille un peu dans ce projet. Donc, j'essaie de faire un peu, entre guillemets, comme vous, donc de partager l'expérience et tout ça. Donc, la plateforme est développée chez Natal Agency, l'entreprise
pour la
digitale.
Communication digitale,
voilà,
il paraît.
Donc, on travaille pas mal. J'ai moi-même, personnellement, démarché certaines mairies pour ça. Parce qu'en fait, il faut comprendre que l'idée est là et la demande, elle est là. Donc, justement, c'est vraiment l'intérêt des.
La demande, c'est augmenter les rentrées fiscales, hein, qui est quand même un enjeu
justement
pour les villes.
De gérer l'utilisation de l'espace public.
C'est ça. Donc, et puis, ordonner l'espace
justement.
Public.
Parce qu'aujourd'hui, Mme Tal l'a dit tout à l'heure, c'est vrai, et c'est une bonne chose, de pouvoir savoir exactement qui sont nos cibles, à qui s'adresser. Donc, on n'est pas encore arrivé véritablement à ce stade, mais on y pense. Pour savoir, parce qu'aujourd'hui, il ne peut qu'y avoir la mairie, mais il y a peut-être le gouverneur, etc. Et c'est compliqué au Sénégal de pouvoir les parler, les approcher. Les mairies, c'est plus simple. Mais pour pouvoir parler au gouverneur, etc., si on est jeune, on a une idée, on vient, on parle, on ne nous écoute pas. Donc je pense qu'aujourd'hui, s'il y a les gouverneurs, les mairies, etc., qui nous écoutent, nous avons, je lance le message directement, si vous me le permettez, nous avons un projet exceptionnel pour régler ce problème de l'utilisation anarchique de l'espace public. Rapprochez-vous de nous et nous allons y travailler ensemble.
Et qui est en droite ligne quand même des institutions internationales du type FMI. La patronne du FMI a dit il n'y a pas si longtemps dans l'émission d'Alain Foka en direct, hein, il faut que les pays africains parviennent à davantage faire rentrer de la fiscalité quand même, Didier Akouété.
Non, effectivement, si vous voulez, je crois que les taux qu'on indique, c'est la fiscalité ramenée à la création de richesses. Je crois que c'est l'ordre de 20% en Afrique contre 40-45% dans les pays développés. En fait, il répond à plusieurs problèmes en réalité à travers son projet. Et plus je l'écoutais, plus je me disais, en fait, il y a d'abord l'occupation de l'espace en général et pas que l'espace public. Donc, un, ne vous limitez pas forcément à l'espace public dans un premier temps. Parce qu'en réalité, vous parlez de commerçants qui font un service, donc qui vendent et qui peuvent tout à fait occuper aussi des espaces privés moyennant financement. D'accord ? Donc, ouvrez un peu le truc. Deuxièmement, c'est que le commerçant qui s'installe sur un espace public et qui doit s'acquitter d'une taxe, pour revenir à la question d'Emmanuel, il a un problème parce que qu'est-ce qu'il a en retour ? Si vous aménagez un espace public comme on le fait dans les marchés, les gens sont prêts à aller s'installer dans un marché, structure organisée propre, et il y a quelqu'un qui passe et qui ramasse et qui collecte les taxes. Fine. Donc, l'aménagement de l'espace public pour réinstaller des commerces, ça aussi, c'est un deuxième aspect de votre projet. Ça peut vouloir dire aussi, je vais voir la mairie, je dis très bien, cet espace est anarchique et c'est pas organisé. Donnez une délégation de services publics, nous allons trouver des partenaires pour aménager l'espace et pouvoir le louer à des commerçants qui, bien sûr, paieront quelque chose tous les mois ou toutes les semaines et une partie sera reversée à la mairie, moyennant votre application, etc. Donc, il y a cette deuxième dimension qui voudrait que l'espace soit déjà un peu aménagé et organisé parce que souvent, je suis désolé, c'est le bordel. L'espace public, c'est la pagaille, c'est le bordel. Et on ne sait pas si c'est sur le trottoir, si c'est le passage des voitures.
Qui a intérêt à ordonner ?
Mais l'État doit organiser.
Mais l'État doit, mais qui a vraiment intérêt ?
L'État qui doit.
Ça, c'est notre question. Mais c'est vrai, comme l'État n'a pas forcément toujours les moyens ou n'a pas intérêt à l'organiser pour assurer la traçabilité des recettes publiques, l'État parfois fait une délégation de services publics à un acteur privé qui aménage, comme on fait pour les marchés, aménage l'espace, le loue, collecte les revenus et reverse une partie à l'État, comme on fait pour les parkings, etc. Donc, c'est un projet qui me paraît extrêmement intéressant, mais avec plusieurs composantes qui mériteraient d'être un peu affinées pour arriver à créer votre business, parce que c'est un business que vous créez.
Est-ce qu'il faut avoir le bras long en politique pour monter ce type de business ?
Ah, c'est sûr. Incontournable.
Ils sont trop petits, Evelinda, là ?
Non, moi, on n'est jamais trop petits. Et puis, je pense qu'on peut y arriver sans bras longs, entre guillemets, en politique.
À quelles conditions, là, pour un projet de ce type ?
Parler aux bonnes personnes.
Parler aux bonnes personnes et les convaincre. Moi, je voudrais simplement leur demander de ne pas trop se disperser. Je sais très bien que pour qu'il y ait un projet, vous avez rajouté d'autres services, que vous allez faire de la gestion de vente pour les commerçants, la gestion financière, etc. Faites attention. Ce n'est pas les mêmes produits que vous faites. Avancez peut-être dans ce projet et puis vous rajouterez d'autres services aux commerçants.
L'idée même, c'est ça. Donc, c'est déjà démarrer par l'aménagement de l'environnement, de l'espace public et de pouvoir formaliser aussi le secteur informel. Parce que sans la gestion des taxes, donc des impôts, ce sera très, très difficile pour notre pays, même pour nous, de pouvoir vivre dans un cadre adéquat.
Et justement, c'est ça par rapport à la formalisation qui est essentielle aujourd'hui quand on regarde un peu la politique de l'État. Donc, on voit que c'est un problème, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui font, entre guillemets, des affaires, qui n'ont pas de NINEA, pas de RC, etc. C'est des commerçants.
Juste du commerce.
Voilà, ils font juste du commerce.
Parlez bien de
donc, ça aussi, c'est
Ibrahima,
c'est un
vous
défi.
Y croyez à ce projet. Hein. Ce n'est pas le vôtre, mais comme vous appuyez votre ami...
Ils sont associés dans l'affaire.
On est une équipe. Hein. On est une équipe. Il y a plusieurs autres projets. Donc, peut-être aujourd'hui, on a peut-être la chance d'être là tous les deux.
Non, mais c'est génial comme idée.
On travaille ensemble. Nous mettons nos locaux... C'est à peu près comme les
citoyens, les usagers ont tous intérêt à ce type d'innovation, non ? Voilà. Et est-ce qu'ils peuvent en vivre?
Bah bien sûr qu'ils peuvent en vivre. Les gens paient des, des loyers de boutique. Même ceux qui occupent l'espace public, les gens des fiscs passent et collectent des taxes et des impôts. On ne sait pas où ça va, effectivement. Donc, si on peut organiser mieux l'espace public pour, bien sûr, les commerçants, pour aussi les clients et pour la collectivité, tout le monde a intérêt.
Mais c'est au profit de l'intérêt général. Si aujourd'hui nous arrivons à avoir une traçabilité des taxes que l'on collecte, on va faire des investissements qui vont servir à tout le monde.
Via le numérique.
Donc, voilà, justement, c'est ça.
Alors,
c'est...
trouver les bonnes personnes, c'est-à-dire trouver des interlocuteurs qui veulent absolument assainir ce secteur-là.
Moi, je dis, ils ne doivent pas être timides. Vous avez parlé aux mairies. Il y a des ministères qui ont en charge ce problème. Vous y allez. Donc, moi, je ne veux pas qu'ils se limitent ou qu'ils s'auto-limitent en se disant « Moi, je suis trop jeune, je ne peux pas atteindre tel niveau. » Encore une fois, pour moi, structurez bien le projet, allez parler, élargissez le nombre d'interlocuteurs à qui vous parlez et je pense que vous pourrez y arriver.
Ça s'appelle Jotali et à mon avis, c'est un projet à suivre, en tout cas comme les trois projets d'ailleurs qu'on a eu. On a eu Evelyne Tal et Didier Acouété, du prêt-à-porter de luxe, de la facturation, de l'ordonnancement d'espace public, du recyclage de... matière
première, secondaire,
des déchets plastiques. Donc.
Tertiaire.
Alors, qu'est-ce que vous trouvez le plus prometteur ou innovant, Evelyne Tal?
Tous les trois. Honnêtement, ce qui me rend un peu triste, c'est de voir autant de jeunes qui ont des projets d'entrepreneuriat, en sachant que nos économies ne se développeront que si nous avons un tissu dense de PMI, que nous amenons à un autre niveau et que nous créons des champions locaux et régionaux. Et que ces jeunes-là, en réalité, se perdent, excusez-moi du terme, des années et des mois sans savoir comment structurer le projet, alors que la question des startups, la question de la densification de nos économies par des PME qui marchent, c'est une question qui interpelle l'État.
Ouais. Demain, on va vous dire, Evelyne Tal, tu as bien parlé sur RFI. Et so what?
Ce que je veux, c'est l'action.
Non, mais c'est l'écosystème. C'est l'écosystème. En fait, on revient à l'écosystème. Oui. Si l'écosystème est mis en place, tous ces jeunes entrepreneurs ne vont pas être ici. Ils sont en train de parler à ces agents dont on a parlé, à ces véhicules de financement, etc. Mais les trois projets sont super. Un, très avancé, c'est la mode. Elle est en train de vendre, elle va exploser. Le recyclage, prendre une chaîne de votre écosystème, vous rentrez dedans, vous démarrez. Ici... ça va être un peu plus long parce que l'administration est très lente, mais n'oubliez pas l'espace privé. L'espace privé pourrait peut-être aller beaucoup plus vite.
Si les commerçants mettaient la pression éventuellement en disant « on veut payer des taxes pour que tout soit mieux ordonné ». C'est ça. Oui, bon, c'est pas gagné.
Tous les trois ont de l'avenir. Au-delà des trois, je pense à tous les porteurs de projets. Et je pense qu'il faudrait que peut-être qu'il y ait une meilleure cohésion au niveau de l'État, hein, je vais le dire comme ça, et de toutes ces multitudes de structures étatiques qu'on puisse organiser ces jeunes, les suivre et leur permettre d'avoir des entreprises qui leur survivront.
Vous les félicitez tous les deux?
Ah bah bravo, ah bah bien sûr. Non mais c'est des héros.
C'est très compliqué.
Oui, c'est ça.
Ça fait tout, les dire à vous.
Moi, en tout cas, je ne désespère pas du tout. Hein. Je sais que...
On sait que vous n'êtes pas désespérée.
Je suis de toute façon passionnée, donc j'y resterai, quelle que soit la situation. J'ai déjà... vous avez mentionné la DER, donc oui, effectivement, j'ai essayé avec la
DER. La délégation à l'entrepreneuriat rapide. Jeunes et les femmes.
Voilà, on verra ce que ça va donner, mais je ne désespère pas du tout. En tout cas, ce projet, il aurait été magnifique si effectivement, bon, il est fait au Sénégal et qu'il est financé par, voilà, par une entité locale.
On a fait passer beaucoup de messages quand même dans l'émission. Merci aux deux coachs, Evelyne Tal, présidente et fondatrice de IN Partners, cabinet de conseil en stratégie. Merci à vous, Didier Acouété d'Afrique Search. Merci à vous, les entrepreneurs, futurs entrepreneurs, start-upers, Abdallah, Ibrahima, Safietou. Merci aussi à toute l'équipe, Delphine de Dianous, Nicolas Benita à la réalisation à la technique, Romain Dubrac à Paris. Les voisins et les voisines, bien sûr, vous nous contacter pour passer dans l'émission un peu à l'avance. Hein. Dès maintenant, 33 1 84 22 71 71. C'est le WhatsApp ou par message privé sur nos réseaux sociaux ou par mail 7milliards@rfi.fr. Dans quelques instants, le journal sur RFI à Paris.
Tout à l'heure sur